Donc aujourd'hui, je n'ai pas enseigné. Nous allons prêcher ensemble. Il y a une différence entre enseigner et prêcher ensemble. On peut aussi prêcher. Mais prêcher, c'est plutôt dans le sens d'exhorter, donner des conseils, des fois pratiques ou encourager. Enseigner, ça peut être, on prend des principes bibliques et on les expose d'une façon systématique. Et puis, disons, c'est plus structuré, ça construit quelque chose en vous. Mais là, je voudrais simplement qu'on puisse ensemble rassembler toutes ces paroles prophétiques, toutes les choses que Dieu est en train de dire en ce moment. Et c'est pas méprisant ce que j'ai dit, mais j'ai dit, il y aura à boire et à manger pour tout le monde. C'est parce que c'est vraiment, Dieu sait quels sont nos besoins. Et peut-être vous le savez pas, alors vous allez peut-être même apprendre quel est votre besoin le plus important actuellement. Le besoin le plus important actuellement pour chacun d'entre nous, c'est d'être réveillé spirituellement. D'être réveillé. Il y a un assoupissement sur le monde. Il y a des choses que les gens ne se rendent plus compte. Et on a besoin, nous, de se tenir éveillé. Si je peux prendre un exemple biblique, c'est comme lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il voulait se préparer pour ce moment. Lui, il savait ce qu'il attendait. Mais il savait aussi que ce serait un moment difficile à passer. Il n'a pas comme ça survolé l'épreuve parce qu'il était fils de Dieu. Il a dû passer cette épreuve. Il savait qu'il allait souffrir, et pas seulement physiquement. Hein, on sait à peu près ce qu'ils lui ont infligé. Hein. Et si vous n'avez pas encore vu le film de Mel Gibson, alors regardez-le, comme ça vous aurez une petite idée de ce que ça peut représenter. Et moi je dis que c'est un film à la fois violent, mais vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de violence aussi que les gens regardent tout le temps. Et c'est pas forcément parce qu'il y a un peu ou beaucoup de sang que c'est spécialement violent. Il y a aussi des violences intérieures et ça, il savait aussi à l'avance qu'il allait souffrir. Donc il a dit, il est venu pour souffrir, parce que nous souffrons, il est venu souffrir à notre place. Donc, quand il était juste avant ce temps de souffrance, il a fallu qu'il se prépare pour l'affronter. Et pour ça, il a prié. Et pour ça, il avait besoin d'être soutenu aussi. Et il a voulu que d'autres se tiennent éveillés avec lui pour prier, mais il les a chaque fois trouvés assoupis. Et il est retourné vers eux, il a dit, vous dormez encore. Et puis, mais vous voyez, lui, il a agonisé, il a prié, mais au moment où ils sont venus le chercher, il était prêt. Et il n'était pas, oh mince, ils m'ont eu, etc. Non, il a dit, c'est moi que vous voulez, je suis là. Comme presque une provocation. Il a dit, c'est moi que vous cherchez, je suis là. Ça montre l'état d'esprit dans lequel il était. Et ses disciples, surtout celui qui avait déclaré « Jamais je ne te trahirai », étaient les premiers à renier parce qu'ils avaient dormi au mauvais moment. Et nous avons besoin de réaliser que c'est un privilège pour nous d'avoir des avertissements de Dieu pour nous tenir éveillés. Et moi, plus que jamais, je veux vous encourager tous à rentrer dans une vie surnaturelle. On ne veut pas être comme Monsieur Tout-le-Monde. On veut vivre des vies surnaturelles. Parce qu'il se passe des choses surnaturelles aussi. Il se passe des choses surnaturelles au niveau des gens qui ont des problèmes, de la confusion mentale, des maladies de toutes sortes, bien pour les médicaments, les docteurs, les hôpitaux. On est très content de tout ça quand on en a besoin. Et puis, il y a aussi des échecs, et puis il y a aussi des situations, ils savent que faire. Et donc, nous avons besoin du surnaturel de Dieu, nous avons besoin de l'onction de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Elle est à notre disposition tous les jours. Alors, à nous de choisir. D'abord, la première chose, c'est d'être réveillé. Est-ce que vous désirez votre propre réveil spirituel? Ça, c'est une des exhortations qu'on a entendues mercredi soir. Vous m'aidez, hein, ceux qui ont été présents ici ou là. On va mettre tout ça ensemble comme on a parlé l'autre jour avec ma sœur. On a parlé de puzzles, faire des puzzles. Moi, j'aime bien les 24 pièces, 30 pièces. Avec des... Non, c'est amusant. au-delà, ça m'amuse beaucoup moins. Mais il y en a, ça les passionne de rassembler des milliers de pièces. Mais on va mettre ensemble de ce que Dieu nous a donné pour former cette belle image que Dieu donne. Parce que Dieu parle par des images, par des visions. Il rend les choses simples. Et on dit des fois, il vaut mieux un bon dessin qu'un long discours. Donc Dieu donne une image, il donne une vision. Il donne une vision de ce que pourrait être ta vie. Peut-être tu es très content de ta vie. Si tu es très content, je dis, il te faut plus. Il faut que tu désires le réveil spirituel pour toi. Alors, il y a un verset que beaucoup de gens aiment beaucoup. Quand il nous est dit, on va le chercher ensemble. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le psaume 37,4. Vous le connaissez déjà ce verset?
Oui.
Vous l'avez souvent utilisé? Seigneur, donne-moi ce que je désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, vous avez les deux extrêmes. Vous avez les gens qui disent... Oui, Dieu est mystérieux, il est lointain, ses voies sont mystérieuses, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Et on prie dans le vague aussi, on dit « Seigneur, fais ceci » ou « bien fais cela » ou « alors fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite ». Et il y a des prières, je caricature, mais c'est à peu près ça, le contenu de la prière est ça. Et vous avez l'autre extrême où il y a des gens qui se comportent comme des enfants mal élevés, gâtés, et qui disent je veux ça, c'est tout juste, ils ne se roulent pas par terre, ils font leur colère et ils croient pouvoir commander Dieu. Je crois qu'il y a des extrêmes, et ici on a un verset qui nous fait quand même une promesse merveilleuse. Il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, ce que ton cœur désire, ce qu'il y a au plus profond de toi-même. Alors, essaye de réfléchir un peu. Quelle est la première chose? Des fois, il y a des gens, ils vivent comme ça. Quand ils se réveillent, la première chose à laquelle ils pensent. Quand ils s'endorment, la dernière chose à laquelle ils pensent. Ce qu'ils pensent pendant la journée. Des fois, on peut appeler ça, pour certains, c'est presque comme une maladie, une obsession. Mais je veux dire, ça peut être positif dans le sens que si vous avez un but pour votre vie, on a parlé déjà de certains sujets comme... dernièrement, le succès, la réussite, le plan de Dieu pour notre vie. Donc, si vous avez un but qui est bon et que vous voulez poursuivre ce but, c'est bon que vous soyez, comme on dit, focalisé, que vous y pensiez, vous y réfléchissiez, vous en soyez imprégné. Donc, c'est bon. Mais des fois, ça peut aussi être des choses qui n'en valent pas la peine ou qui vous détournent de l'objectif que Dieu avait pour votre vie, le vrai. En quoi ça peut être mauvais? Ça peut être mauvais parce que c'est quelque chose qui finalement ne va pas nous satisfaire au fond de nous-mêmes. Donc Dieu sait mieux ce qu'il y a à l'intérieur et il apprend pour nous-mêmes à nous connaître. Je crois qu'on a des progrès aussi à faire pour remettre les choses à leur place. Quand vous venez à Dieu, il ne veut pas détruire votre personnalité ou votre personne. Je sais qu'il y a eu une espèce d'enseignement évangélique... Tout ce que je suis, c'est mauvais. Et il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de valable. Non, même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, vous pouvez voir des gens dans la rue ou autour de vous qui ils font des bonnes œuvres, ils font du bien, ils sont des fois même agréables, polis, que sais-je, prêts à rendre service. Ça existe. Il y a des bonnes choses. Et il y a aussi des bonnes choses au niveau de chacun d'entre nous. Il y a des choses de notre personnalité que Dieu ne veut absolument pas détruire, mais qui veut qu'il puisse se développer. D'un autre côté, c'est vrai aussi qu'il y a un caractère, on appelle ça souvent le caractère de Jésus qu'il veut voir en nous, mais il veut qu'on soit unis à lui, mais pas exactement pareil. Donc on a parmi nous une personne qui vient de se marier, donc ils ne veulent pas devenir au bout de... 1 an, 10 ans, 20 ans, exactement la même personne. Mais ce qui fait la richesse, c'est que chacun va apporter dans cette alliance sa personnalité et sa richesse. Et ça doit rester comme ça. Bien sûr, à force, il y aura des choses, on va voir les choses d'une même façon, il y a des choses qui vont rapprocher. Mais je crois que c'est essentiel qu'on réalise nous avons le droit d'être libres, d'être nous-mêmes. Et c'est important, il faut que ça soit dit, il faut que ça soit rappelé. Sinon, on va courir pendant toute notre vie après une espèce de modèle évangélique, une espèce de moule dans lequel on ne va pas rentrer parce qu'il n'est pas fait pour nous. C'est un moule qui a été inventé par l'imagination d'un homme ou de plusieurs, un peu aidé par le diable. Et puis ils veulent faire rentrer tout le monde dedans, sachant que ça va créer des générations de gens malheureux. Ils ne vont jamais réussir. Jamais. Ça ne réussira pas. Nous avons besoin donc de voir cette promesse de Dieu, elle est pour nous. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce qu'on ton cœur désire. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune dans la foi, j'ai lu un livre, et puis cette personne encourageait à faire des expériences avec l'Esprit de Dieu. Et il dit, si la communion avec Dieu n'est pas la chose la plus merveilleuse que vous puissiez expérimenter sur terre, qu'est-ce que vous allez faire pendant toute l'éternité? Et puis il avait donné un exemple, moi ça m'avait fait rire, et ça m'avait marqué à l'époque, il a dit, est-ce qu'on va faire des parties de golf intergalactiques pour essayer de mettre un peu de piment, de distraction dans cette éternité qui sera bien longue, hein, comme quelqu'un de fameux a dit, l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Mais donc, quoi faire pendant l'éternité si la communion avec Dieu n'est pas la chose la plus merveilleuse qu'on puisse expérimenter? Et alors nous avons dans la Bible des personnes qui ont vécu des sommets et aussi des abîmes. Et nous avons des promesses et nous n'avons quasiment personne qui ait déjà atteint l'objectif. Vous n'en voyez aucun. Même ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands apôtres. Et bon, nous, on rajoute des adjectifs comme ça. Mais même les apôtres, même ceux qui étaient proches de Jésus, aucun n'a vécu l'excellence de ce que nous pourrons expérimenter plus tard. Mais plusieurs, il nous a dit, ils ont touché ces choses. Par exemple, l'apôtre Paul, on pense que c'est en faisant son service, il a été lapidé, et pendant qu'il était dans le coma, il a été au ciel pendant un moment, et il nous raconte cette expérience dans 2 Corinthiens 12, et il dit qu'il a été au troisième ciel. Là, c'est une autre fois, j'avais déjà enseigné sur le nombre de ciels qu'il y a. Hein. Il n'y a pas le septième ciel, il n'existe pas. Ça, c'est juste chez certains qui sont musulmans ou bouddhistes ou autres qui parlent de ce genre de choses. Mais pour nous, dans la Bible, nous avons un enseignement qui nous parle de 3 cieux qui existent. Il y a le ciel, c'est quand vous regardez en l'air, vous voyez l'atmosphère. Et puis, vous avez un deuxième ciel, ça c'est un peu plus loin, le cosmos. Et puis ensuite, vous avez une dimension ailleurs, le spirituel, et ça c'est le troisième ciel. C'est comme ça que nous l'expliquons et que nous le comprenons. Et ce troisième ciel, c'est là où il y a la présence de Dieu. Comment dire, il est partout présent, mais c'est là que c'est tangible, c'est là que c'est évident, c'est là que vos yeux le verront. Donc, nous essayons maintenant d'amener le ciel sur la terre. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que Jésus est venu pour ça, hein, pour nous l'apporter. On n'a pas besoin, parce que la religion, c'est essayer d'atteindre Dieu. Mais il est déjà venu. On n'a pas besoin de demander Dieu, de lui supplier, Seigneur, ouvre les cieux, etc. Je sais qu'il y a quelques beaux chants, il y a même des prières d'intercession. Ah, Seigneur, déchire les cieux. C'est Ancien Testament, tout ça. Hein. Jésus, il est venu, il a établi une communication. On pourrait dire un ascenseur, il y a un ascenseur, un couloir ou quelque chose, ou pour, voilà, Guillaume, tu as une proposition, une suggestion d'illustration? Non, ça peut être intéressant. Hein? Non, vas-y, ose. Une ligne ADSL? Oh, je croyais que tu allais nous inventer quelque chose d'un peu plus élaboré que ça. Comme par exemple une porte des étoiles ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Bon. Donc, la science-fiction n'a rien inventé. Hein. Ils sont bien en deçà de ce qu'est la réalité divine. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant de voir avec quoi se nourrissent actuellement les gens autour de nous, les jeunes et ceux qui aiment ça. C'est une pâle comparaison. Alors moi, quand je regarde, je dis, formidable, nous on a ça et encore mieux. Alors, d'aller dans une porte et se retrouver à l'autre, dans une autre galaxie, dans un clin d'œil, Dieu peut le faire et bien plus que ça. Donc, il n'y a pas de problème. Téléportation, ça fait longtemps que c'est dans la Bible. Ça fait déjà des milliers d'années que Dieu en a fait. Et donc, tout ce que vous pouvez imaginer, de toute façon, le diable n'a rien inventé, il ne peut rien créer. Donc, ce ne sont que des copies, plus ou moins. Et je pense qu'il y a une stratégie de sa part, c'est que lorsque les réalités spirituelles sont annoncées aux gens autour de nous, certains vont dire « Ah non, mais ça, c'est pas dans la réalité. Ça, c'est dans les fictions, des feuilletons que je regarde. » Mais nous, on peut aussi l'utiliser comme une arme contre le diable en disant « Ce sont des copies, mais nous, on a le vrai. Ça existe. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous le montrer. » Donc, nous sommes là pour parler du surnaturel de Dieu. Surnaturel de Dieu dans votre vie, désirez le réveil. Que ce soit le désir de votre cœur, que je sois réveillé spirituellement. Quand je vois, moi j'aime bien les prophètes, surtout ceux qui étaient un peu extraordinaires. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parlais, mais des gens comme Élie, Élisée, tout ça, quand ils arrivent, ou quand quelqu'un arrive chez eux, ils savent déjà à l'avance ce qu'il a fait, ce qu'il pense, ce qui va lui arriver. Et là, on se dit, bon, là, c'est plus de la morale. On prêche pas la morale. On prêche le miracle de Dieu. Ces choses existent. Et donc, même le faux prophète Balaam, il se disait lui-même, voilà, maintenant, je vais annoncer la voix, c'est la voix de celui qui voit. On parlait des voyants. Bon, je vais pas vous faire croire que les voyantes, c'est bien, hein. Mais dans la Bible, les prophètes étaient appelés les voyants parce qu'ils voyaient. Ils voyaient des choses que d'autres personnes ne voient pas. Il y a l'exemple aussi où une ville était encerclée, on voulait capturer le prophète et lui dit « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Il voyait déjà, mais il ne voyait pas ce que le prophète voyait. C'est-à-dire des chars de feu, des multitudes d'anges. Et les anges, ce n'est pas une gentille histoire pour que les enfants puissent bien dormir. Et dit, il y a ton petit ange qui veille sur toi, ou qui est plus ou moins grand selon le cas. Non, c'est une réalité. Alors que ça me fait aussi rire quand à la radio, nous croyons avoir trouvé la réponse. Sommes-nous seuls dans l'univers? Je dis, ça fait longtemps que je la connais, la réponse. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a d'autres créations. Dieu a créé des myriades d'anges. Et si Dieu a trouvé bon de faire une autre création à des millions d'années-lumière, c'est pas mon problème. De toute façon, moi, je ne me sens pas seul. J'ai pas besoin de réponse à cette question. Je l'ai déjà. Et donc, là encore, on peut encourager les gens à dire tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous perturbe, Dieu a déjà la réponse. Et moi, je trouve que finalement, notre Bible n'est pas tellement grosse que ça. Quand on voit toutes les perspectives que ça ouvre, on peut dire que c'est pas du tout... Il n'y a pas toutes les réponses à tous les mystères, hein, à beaucoup de questions qu'on peut se poser des fois. Mais il y a déjà suffisamment pour nous permettre de savoir comment Dieu se manifeste, comment il veut agir, comment on peut comprendre le sens de notre vie, la destinée. Il y a beaucoup de choses déjà. Donc, je vous encourage à désirer le réveil spirituel pour vous. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va vous mettre au diapason avec Dieu. Il n'y a rien de plus que Dieu désire lui-même que de vous mettre en vous cette chose, cette soif de voir Dieu agir. Pas juste un petit peu, de temps en temps, plus. Vous n'aimeriez pas être des personnes comme ça, qui voient des choses à l'avance. Je vois par exemple, il y a toutes sortes d'arnaques ou des choses comme ça. On aimerait savoir, est-ce que celui qui me propose une affaire, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de travers? Dieu peut avertir, Dieu peut nous dire où aller ou ne pas aller, parce qu'il sait qu'il y a un danger éventuellement. Ce n'est pas par peur qu'on fait ça. C'est juste parce que c'est intelligent de dire que si je suis averti, eh ben, je vais pas y aller. C'est intelligent de dire, je vais pas me lancer dans une affaire avec quelqu'un qui essaye de me tromper. Et donc, il faut vraiment comprendre que si Dieu veut faire ça, c'est pas parce qu'il veut nous manipuler ou se servir de nous. Il ne veut pas se servir de nous. Tout le monde peut dire ça ensemble. Dieu ne veut pas se servir de moi. La Bible dit clairement, il n'a pas besoin de main humaine pour être servi. Si nous parlons de serviteurs de Dieu, et si vous êtes tous appelés à servir Dieu, il faut simplement que vous le voyez du côté, c'est un privilège de collaborer avec lui. C'est un privilège de voir que peut-être par une parole, quelqu'un est guéri. Je parle de toutes sortes de guérisons, hein. Vous savez que si par votre parole, vous pouvez encourager quelqu'un qui était déprimé, ben, c'est déjà une action de Dieu, quelque part. Ce n'est pas toujours facile, hein. Si quelqu'un a connu vivre avec quelqu'un qui est vraiment dans la dépression, vous pouvez y aller pour les bons conseils. Allez, t'en fais pas, tout ça. Non. Mais donc, que ça soit une guérison radicale, une guérison physique, une guérison spirituelle, une guérison mentale ou un encouragement, d'être le collaborateur de Dieu pour ça. C'est un privilège. C'est pas, oh, il faut vraiment y aller pour... non, c'est parce qu'on se dit, j'ai reçu quelque chose de Dieu, j'ai envie de partager. Je sais que c'est un sujet un petit peu délicat, la guérison, parce que après, il y a actuellement une pratique illégale de la médecine. Nous ne pratiquons pas la médecine, donc on est tranquille pour ça. On annonce simplement la bonne nouvelle. C'est que le Dieu créateur, il se révèle à nous, il nous utilise, dans le bon sens, toujours, j'explique, hein, parce que utilise, se servir d'eux, on est tellement mal programmé et orienté qu'on prend les choses de travers. Mais il nous utilise dans le bon sens du terme, pour être une source de bénédiction. Et dans ce sens, sans faire maintenant magnétiseur, tour de passe-passe ou que sais-je, etc., on n'est pas des guérisseurs, mais nous voudrions quand même que nos mains puissent être des mains qui communiquent la puissance de Dieu. Vous ne voudriez pas ça? Que si vous avez un malade, juste vous lui serrez la main pour dire bonjour, il y a une puissance de Dieu qui passe en lui. Moi, c'est ce que j'attends, hein. Et j'ai même une raison biblique de pouvoir l'attendre, et vous aussi, vous le savez, hein. Dans Marc 5, vous connaissez cette histoire, mais on va simplement se rappeler qu'il y avait, dans Marc 5, verset 25, une femme qui était gravement malade. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. C'est pas mal, 12 ans, hein. C'est assez long. Elle avait souffert, beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Alors, non seulement elle était malade, mais maintenant elle était encore complètement ruinée. Elle n'avait plus rien. Socialement, elle était maintenant dans une situation difficile. Elle n'avait plus rien. Elle ne pouvait plus que mendier. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. La Bible ne dit pas ici si c'est à cause du traitement des médecins, ou si c'est parce que son état s'est tout simplement détérioré. Mais, donc, il nous est dit, ayant entendu parler de Jésus. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu ou Christ. Romains 10, 17. Pourquoi on dit Christ? Parce que certains pensent que si je lis ma Bible, la foi vient automatiquement. Non, la Bible ne produit pas la foi automatiquement. Ce que je tiens entre mes mains n'est qu'un livre. Ça ne devient parole de Dieu que à partir du moment où le Saint-Esprit lui donne vie et que moi je désire que ce soit parole de Dieu pour moi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui ont fait des longues études de théologie, mais qui n'ont pas un gramme de foi parce qu'ils regardent avec un regard tellement critique qu'à la fin il ne reste plus rien. Il n'y a plus de miraculeux. Tout doit être expliqué au point que on ne croit plus que Dieu puisse faire des choses extraordinaires ou qui dépassent notre cadre naturel. Mais donc, ayant entendu parler de Jésus, elle a suffisamment entendu parler de Jésus pour faire un rapprochement. Ce Jésus, ma maladie, il peut faire quelque chose dans ma vie. C'est ça qu'il faut réaliser. Est-ce que dans votre situation, vous y pensez des fois que Jésus peut faire quelque chose? Parce qu'on n'a pas besoin d'être à l'extrémité. On n'a pas besoin d'être malade depuis 12 ans, mais on a tout simplement besoin de réaliser, mais Dieu veut aussi m'aider dans les petites choses. Là aussi, il y a un raisonnement qui a privé beaucoup de gens. Dieu est trop occupé, Il s'intéresse que pour des grandes choses et puis pour les petits détails, il n'a pas le temps. Mais il est tout-puissant, il est omniscient, il sait tout. Il peut être à tous les endroits en même temps. Il peut parler à chacun d'entre nous et s'occuper de vous 24 heures sur 24 et en même temps 24 heures sur 24 à la personne qui est assise à côté de vous. Ben, c'est quelque chose qui nous dépasse, vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous, vous parlez à une personne. Si vous voulez parler à l'autre, ben, automatiquement, votre conversation s'arrête. Vous pensez à quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, vous ne pensez plus au premier. Et, mais nous croyons que Dieu peut faire ça. Donc, elle a fait le rapprochement. Jésus peut faire quelque chose dans ma situation. Mais elle ne pouvait pas lui faire la demande. Elle pensait peut-être qu'il ne ferait rien ou qu'il était trop saint pour la toucher, elle qui était une femme qui avait une maladie qui aurait dû normalement ne même pas être au milieu des gens parce que c'était considéré chez les juifs comme étant quelque chose d'impur. Elle aurait pu être lapidée pour ce qu'elle a fait, de se présenter au milieu d'une foule dans son état. Parce qu'elle était atteinte d'une perte de sang et ça c'était considéré dans leur religion comme étant impur. Mais elle a surmonté tous ces obstacles de raisonnement, de souffrance, etc. Elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Les vêtements, même pas du contact physique. Parce que là encore, et un juif au contact de quelqu'un comme ça se serait senti impur. Un sacrificateur n'aurait pas accepté que quelqu'un comme ça le touche. Et donc, elle avait entendu parler de la puissance de Jésus, mais elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais elle avait assez de foi de ce qu'elle avait entendu pour dire « si je touche le vêtement, quelque chose va se passer ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc ça veut dire que c'était une douleur permanente aussi. Hein. Si elle peut sentir « top, c'est fini ». Elle sentit en son corps. Et ce qui nous intéresse ici, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus a connu qu'une force était sortie de lui. Et ça, c'est intéressant pour nous. Parce qu'on a entendu souvent cette illustration et ce message de, voilà, mettez votre foi en Dieu. Imaginez, Jésus est là et touchez son vêtement et recevez le miracle de Dieu. Mais le message pour l'Église maintenant, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Le message pour l'Église maintenant, c'est, vous êtes les représentants de Jésus sur terre. Vous devez commencer à vous voir. Vas-y, touche mon vêtement. Une force sortira de moi et ira en toi. Et c'est la réalité. Et vous avez le droit de le croire. Parce qu'il nous est dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous maintenant. Il est en nous. Quelqu'un pense qu'il n'est pas en lui ? Nous croyons, d'après la Bible, que nous devenons temple du Saint-Esprit. Il habite en nous réellement. Là encore, c'est un mystère. Comment est-ce qu'il peut être à la fois en toi et en moi? Est-ce que toi, tu as un morceau et moi, j'ai un autre morceau? Est-ce qu'il s'est découpé en mille... Dieu peut le faire. Il est en nous, en chacun de nous. Mais, comme je prends souvent cette illustration, je la reprends encore aujourd'hui, si vous accueillez quelqu'un chez vous, vous pouvez choisir. Si c'est juste le facteur qui apporte un colis, ben, vous ouvrez la porte, vous dites merci, vous signez éventuellement, et puis il repart. Et si c'est quelqu'un que peut-être d'autre, il se peut qu'il y ait des gens qui rentrent dans votre couloir, ou alors c'est des amis, vous les invitez à s'asseoir dans votre salon où ils sont à table avec vous. Ou alors c'est des meilleurs amis encore, ils passent la nuit, vous leur offrez une chambre d'amis. Ou alors c'est vraiment des membres de la famille, ils habitent ici, et donc ils ont leur chambre et leur lit, d'accord? Donc il y a toutes sortes de possibilités, tout en demeurant dans la maison. Et je crois que le Saint-Esprit peut habiter en nous, mais c'est nous qui choisissons quelle place il va avoir. Quelle influence est-ce qu'il pourra avoir? Quelles sont les zones que je lui donne accès ou non? Est-ce qu'il y a des chambres qui sont fermées? Non, là tu n'y vas pas. Ça, c'est mon petit cagibi, le secret. Peut-être c'est une armoire et il y a un squelette dedans, comme on dit des fois. C'est la vieille expression, des squelettes dans le placard. C'est des choses qu'on a cachées. Mais il faut tout ouvrir parce que le Saint-Esprit veut faire le ménage et il veut tout remplir. Parce que la Bible nous dit aussi que Si on fait juste un tout petit peu de ménage et pas le ménage à fond, alors après la condition devient pire. On est nouveau, on est malheureux, on est tiraillé, on a un petit peu de Dieu dans notre vie et un petit peu de soi-même et un petit peu du diable et puis on essaie de faire plaisir à tout le monde et ça ne va pas. Donc, vous savez, il y avait une émission qui disait on ne peut pas plaire à tout le monde, quel que soit le contenu de l'émission, le titre est vrai. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne va pas. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Jésus l'avait dit déjà il y a 2000 ans. Il a dit malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous, parce que ça montre que vous êtes alors une personne qui cherchez à plaire à tout le monde. Alors vous êtes en train de vous compromettre et donc il y aura forcément du mensonge, parce que vous pouvez pas dire à l'un ah c'est bien ce que tu fais et l'autre qui fait le contraire oui c'est bien ce que tu fais. Ça ne va pas toujours. Donc, nous avons besoin non pas de faire comme certains hommes politiques, de féliciter tout le monde, mais nous avons besoin de leaders, nous avons besoin de prophètes. Là encore, alors on a déjà vu, nous sommes appelés à être comme Jésus, conscients de la puissance de Dieu qui est en nous. Désirer le réveil, désirer le fait que des gens se tournent vers vous et disent « Je veux ce que tu as, je veux cette dimension de l'esprit ». Je veux cette puissance de Dieu, j'en ai besoin aussi. Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer, on n'a pas le temps d'être déprimé, on n'a même pas le temps de se disputer avec un tel et un tel. On n'a pas le temps pour tout ça. On a trop de choses passionnantes qu'on veut faire avec Dieu. Donc, nous désirons notre propre réveil. On en a connu par le passé, on a eu des réveils périodiques, des moments où on vivait des grandes choses avec Dieu. L'Église aussi a connu ces périodes de visitation, où il y avait des réunions, où des fois on sentait l'onction, il y a eu des gens qui ont été touchés, des gens qui n'ont pas eu besoin de subir des opérations, des choses comme ça. On pourrait écrire l'histoire de l'Église, mais on n'a pas le temps pour ça non plus. On a des choses qu'on veut vivre devant nous, on n'est pas dans le passé. Hein. Comme j'ai dit dernièrement, la Bible dit « écris la vision », ne dit pas « écris tes mémoires ». Écris la vision. La vision, c'est pour l'avenir, la vision. C'est pour quelque chose qui est devant nous. Donc, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez un désir? Est-ce que vous... Autre chose que de gagner au loto, ou d'avoir une nouvelle voiture, ou de partir en vacances, toutes ces choses, ça ne me dérange pas. Hein. Le pasteur John Austin, chaque fois qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait des jeux de hasard, il avait toujours une petite plaisanterie, une petite astuce. Il disait, bon, si jamais vous jouez au loto... Surtout, donnez votre dîme après quand vous aurez gagné. Donc, il y avait toujours une petite astuce. Mais nous savons que les jeux de hasard, c'est souvent pour taxer les pauvres parce que ça leur vend du rêve. Et en fait, ils se font attraper et ils investissent beaucoup plus que ce qu'ils pourraient jamais en retirer. De temps en temps, il y a entre guillemets un chanceux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne croyons pas à la chance. Nous croyons à la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, nous dit le Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas des choses après qui se retournent contre nous. Quand je dis désirer le réveil personnel, je pense aussi, on parle de Saint-Esprit, d'être employé par Dieu pour dire des choses. On a parlé des prophètes qui voyaient des choses dans les gens. Les dons spirituels, les manifestations de l'esprit, c'est des choses extraordinaires qui veulent attirer l'attention des gens. Hein, si quelqu'un a une parole de connaissance, si toi là-bas, jeune homme dans ton t-shirt rouge, le Seigneur me montre que, bah, si après je te dis ce que tu as mangé hier soir ou ce que tu as fait ce matin ou des choses, tout de suite, tu dis, comment peut-il le savoir éventuellement? Bon, alors. Ça attire l'attention. Il y a des révélations qui attirent l'attention. Et après, on se dit, oui, mais si Dieu lui a montré ça, alors ça veut dire que vraiment les paroles qui sont dites, Dieu veut me parler, il faut que je sois attentif. C'est une façon d'attirer l'attention. Ce n'est pas seulement une façon de recevoir un miracle. C'est aussi une façon d'attirer l'attention sur la réalité de la présence de Dieu dans notre vie. Donc, quand on dit désirer le réveil, c'est aussi aspirer aux dons spirituels. Tout le monde sait aspirer ici? Voilà, vous avez déjà mangé de la soupe qui était trop chaude, vous avez fait du bruit avec votre cuillère. Vous savez que c'est pas bien de faire ça à table, hein? Si vous avez appris les bonnes manières, vous ne le faites pas, au moins quand il y a de la visite, si vous êtes juste entre, tranquille, vous pouvez faire comme ça, mais c'est ça, aspirer, parce qu'on veut que cette chose qui est dans la cuillère vienne en nous. Et quand la Bible dit aspirer au don spirituel, il y a des gens qui restent les bras croisés en disant, oui, bon, il va bien y avoir quelqu'un qui va faire quelque chose ici, ou alors on se plaint, on se dit, c'est vraiment pas une église vivante, hein, il n'y a même pas de don spirituel, il n'y a même pas de, et ceci et cela. Quand vous parlez comme ça, vous savez que vous vous montrez du doigt, il y en a trois qui regardent vers vous. Trois doigts quand vous pointez du doigt. Vous êtes d'abord responsable de, est-ce que moi je laisse Dieu agir au travers de moi? Est-ce que moi je fais au moins cette prière, disant, Seigneur, si tu veux bénir quelqu'un, tu veux dire une parole à quelqu'un, utilise-moi. Et vous allez être peut-être surpris de voir, parce qu'on en parlait avec Elie Yapoujian, qui était la semaine dernière ici présent. Et puis, il nous raconte certaines histoires, comment c'était tout récent. Il a dit, il y avait un jeune homme, il n'est pas venu à la réunion, parce qu'il y avait un match de foot. Alors, il était un peu penaud, parce que le lendemain, il y avait aussi une réunion. Alors, il est venu à la réunion du lendemain. Il était un peu gêné, il s'est dit, bon, c'est pas très spirituel, hein, j'ai pas venu à la réunion, et puis, j'étais au match de foot, et puis Dieu l'a employé, il a dit, toi, tu as prié pour lui. Et puis, il l'a fait, et l'autre a été touché, il a senti la puissance de Dieu. Il était le premier surpris, il a dit, quoi? Dieu passe par moi? Il était étonné parce que dans notre tête, on a encore des blocages, des faux raisonnements. On croit qu'on n'est pas assez bien, lui il est plus spirituel. Ça ne doit pas être une excuse pour jamais lire sa Bible, jamais prier, jamais rien faire. Mais de dire, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend avant tout de votre foi. Est-ce que vous êtes déterminé pour ça? Donc, la Bible dit, aspirez au don de l'Esprit. Ça veut dire, aspirez, recherchez cette façon dont Dieu va passer au travers de vous. Hein, quand on parlait d'être utilisé par Dieu, que Dieu se sert de nous, j'ai dit dans un bon sens du terme. D'autres, des fois, disent, Seigneur, que je sois un canal. Alors, quelqu'un, une fois, en entendant cette expression, que je sois un canal, il a dit, non, tu n'es pas un tuyau. Ça ne doit pas être restrictif, d'accord? On comprend, canal, c'est pour véhiculer un canal, c'est pour de l'eau qu'on puisse passer au travers, par exemple, avec des bateaux, des choses comme ça. Et dans Colossiens 3, si vous voulez lire, ça commence par « si donc ». « Si donc », ça veut dire « il y a une condition ». Tout le monde dit « si donc ». ».«
Si donc ».«
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». On ne parle pas là de la résurrection du corps. Il y aura une résurrection de notre corps. Soit qu'on soit mort, enterré, ou autre chose. Hein. On n'a pas besoin d'être enterré. Il y a tout un débat... Est-ce qu'il faut être enterré, brûlé ou que sais-je? Je dis, mais celui qui a été dévoré par les requins, il n'en reste pas grand-chose non plus, mais Dieu peut aussi le ressusciter, il peut aussi lui donner un corps spirituel après. Ce n'est pas impossible pour Dieu. Donc, quelle que soit la façon, si quelqu'un est mort dans le sens de ce que son corps est détruit, il y aura une résurrection. Sinon, pour nous, je dis pour nous parce que moi je l'attends, pour nous il y aura l'enlèvement et la transformation. Nous la vivrons de notre temps. Ça ne sera pas dans 50 ans, ça ne sera pas dans 100 ans, ou je ne sais pas quoi. Ça sera maintenant et bientôt. Mais ça ne doit pas nous affoler, au contraire, le meilleur est devant nous. Hein. Le meilleur est devant nous. Mais il nous est dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire, si votre esprit maintenant est déjà né de nouveau et uni à Christ... Cherchez les choses d'en haut. Cherchez des choses en haut. Il y a des choses dans le ciel, des choses spirituelles que vous devez chercher. Vous devez les chercher, vous avez entendu? Cherchez-les. Il n'est pas dit, elles viendront toutes seules. Des fois, on dit tout rôti du ciel. Ces choses, il n'est pas dit, elles tomberont toutes seules. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Donc, dans un premier temps, vous les cherchez, ensuite vous vous attachez. Attacher est un bon sens. Ça ne veut pas dire lié comme un poteau de prisonnier. Attacher, on peut être attaché à quelqu'un. il y a de l'attachement. Ce n'est pas des liens désagréables. Ça peut être très agréable, au contraire. Quelqu'un qu'on aime, on est attaché à lui. Et on passe de bons moments ensemble. Ici, il est dit, attachez-vous à ces choses. Ayez de l'affection pour ces choses. Qu'elles soient agréables, même désirables. Le diable réussit dans la tête des gens à leur faire croire que quelque chose est désirable, qui en fait est abject et qui produit la mort en eux. Donc il les conduit à désirer des choses qui après vont produire quelque chose d'extrêmement mauvais en eux. Mais ici la Bible dit « attachez-vous aux choses d'en haut ». Il dit « non à celles qui sont sur la terre ». Ça veut dire que Dieu nous donne des choses pour en jouir, mais on sait que si on s'y attache d'une manière exagérée, ça a un double effet. Premièrement, le jour où on en est privé, on est tout déprimé. Si vous aimez beaucoup votre voiture, mais il ne faut pas vous attacher à ce point à la voiture, parce que, vous savez, ils fabriquent d'autres modèles, hein, même des plus beaux et des mieux et des plus économiques, et, etc. Mais des gens qui s'attachent à des choses aussi simples que ça. Les Français travaillent beaucoup à avoir leur propre maison. Et c'est sympa d'avoir sa maison, d'occuper son jardin plus ou moins grand, et faire son intérieur, plein de choses qui sont bien. Mais si c'est toute votre vie, vous savez, un jour, vous ne pourrez plus y habiter, hein, ça sera fini. Ou un jour, elle va vieillir. Alors, il y a beaucoup de choses sur la terre dont Dieu nous donne de pouvoir en jouir, mais elles ne doivent pas être pour nous un attachement. Surtout pas un attachement exagéré par rapport aux choses de l'esprit. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et nous sommes programmés à l'inverse, dans le naturel. On dit, ça c'est quelque chose de solide, je peux le toucher. Ça, je peux y mettre ma foi. Ça, je peux le croire, ça existe. Et Dieu, je ne le vois pas. Non, je ne suis pas sûr s'il existe, je ne suis pas sûr si toutes ces choses de la Bible, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et la Bible dit, c'est exactement l'inverse. Ça, vous avez l'impression que c'est solide, mais tout ce que, même des choses très costauds, pouvaient venir après 10, 20, 30 ans, où il n'y a pas eu d'entretien, où il n'y a pas eu de réparation de fait. Tout devient délabré, tout devient gâché, détruit. Donc, attachons-nous aux choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles peuvent produire des choses matérielles. Dieu est esprit, il est spirituel. Et s'il y a un besoin, il peut le créer. Moi, je dis, il y a un problème pour la planète. Un problème, problème de pollution, problème d'ozone, problème d'eau potable. Il y a plein de problèmes. Mais Dieu n'a pas perdu la recette de la manne. S'il veut nourrir 8 milliards d'habitants, il peut en nourrir 8 milliards. S'il veut en nourrir 20 milliards sur cette planète, il en nourrira 20 milliards. Il nous a placés ici. L'homme ne voit pas de solution, mais il y en a. Il y a des solutions de remplaçant pour l'énergie. Le fameux moteur à eau, ou que sais-je. Toutes ces choses ne sont pas un problème pour Dieu. S'il faut, il créera une nouvelle source d'énergie. Peut-être qu'elle existe déjà. Il nous est dit, attachez-vous aux choses spirituelles. Vous êtes mort par rapport à des choses anciennes. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il est dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ça, ça a un double sens pour moi. Christ est en vous, et ça veut dire que lorsque Jésus va apparaître, nous allons être révélés d'une façon particulière. Mais en même temps aussi, ça veut dire, si Christ est en vous maintenant, et que vous lui donnez toujours plus de place, et qu'il paraît dans votre vie, alors vous allez expérimenter aussi des choses glorieuses. Vous voyez, il y a toujours, souvent dans la Bible, une double prophétie. Une prophétie courte, pour maintenant, et quelque chose de plus grand, pour plus tard. Bien, là, on est dans cette situation. Désire le réveil. Il y a un des proverbes qui dit que le fils qui dort pendant la moisson est le fils qui fait honte. Donc, nous sommes fils et filles de Dieu. Ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, mais de se réveiller parce que le réveil précède la moisson. Pour ceux qui étaient présents à l'une ou l'autre fois, voyez qu'on est en train de résumer un petit peu. Nous avons entendu ces paroles, nous avons parlé de ça, à la fois des paroles de Élie et Denise Yapoudjan, nous ont entraînés dans ces choses. Il y a un temps de préparation. Lorsque le paysan sait que la moisson est bientôt prête, il fait des préparatifs. Et un pas le matin, il se lève et dit oh, c'est le jour de la moisson, j'avais rien préparé, et maintenant il faut y aller et tout rentrer. On fait des préparatifs. On réfléchit à l'endroit où est-ce qu'on va stocker la moisson. Comment on va faire pour la faire rentrer? Qui va travailler sur les machines? Des choses comme ça. Et bien avec le corps de Christ, c'est la même chose. La moisson est le but. La moisson de quoi? Une moisson d'âme et en même temps une moisson de choses que Dieu nous a promises. On a des promesses de Dieu. Donc, le réveil, c'est la première chose. Et rentrer la moisson, c'est la deuxième. Pourquoi se réveiller? Si c'est votre jour de repos, vous n'avez pas besoin de vous réveiller. Vous pouvez rester au lit toute la journée si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Et même, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Vous savez ça? Vous pouvez faire une grasse matinée. Et, parce que si vous avez bien travaillé toute la semaine, ben, vous pouvez sanctifier le jour du repos. C'est tout à fait permis. Vous pouvez même sanctifier 2 jours si vous voulez, ou 3 jours. Mais si c'est le jour où vous devez partir au travail, si vous avez un objectif, ou si c'est votre journée libre mais que vous avez un projet, vous vous réveillez mais en vue de quelque chose. Comprenez la différence? Je ne vous demande pas d'être réveillé spirituellement juste pour dire, voilà, parce que c'est mieux. C'est parce qu'il y a un but. Si on est réveillé spirituellement, on peut faire partie de la moisson. Vous voudriez pas faire partie de la moisson? Nous, on est des laboureurs, on est des semeurs, ça on sait faire, ça on l'a fait depuis des années. Et on a pour le moment récolté peu. Et on ne peut pas accepter ça. Vous pouvez accepter ça? La Bible nous dit que quand le semeur jette la semence, il y a des grains qui rapportent 30, 60 et 100 pour un. Quelqu'un a dit avec humour aussi, humour un peu grinçant, il a dit, quand Pierre à la Pentecôte a prêché son message, il a prêché un message, il y avait 3000 convertis. Il a dit, nous il faut qu'on prêche 3000 messages pour faire un converti. C'est parce qu'on vit dans un monde où il y a un assoupissement spirituel et un désintérêt d'une certaine façon des choses de Dieu. On s'intéresse aux religieux, on s'intéresse aux phénomènes extra, tout ce que vous voulez, mais pour s'approcher vraiment de la parole de Dieu et de la vérité, ben, il y a quelqu'un, la Bible nous dit que c'est le Dieu de ce siècle, vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 4:4, il me semble, hein, vous vérifierez les étudiants de la Bible, 2 Corinthiens 4:4, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Pas juste dit de l'évangile, l'évangile de la gloire de Christ. Ça fait le tout. C'est cet évangile que je vous annonce. Un évangile de la gloire de Christ. La gloire, ça veut dire quoi? Certains cherchent la gloire parce qu'ils sont premiers aux Jeux Olympiques, des choses comme ça. Tout le monde dit bravo, c'est formidable. Mais la gloire, c'est plus que ça. La gloire, ça veut dire avoir de la puissance, avoir du poids, avoir un rayonnement. Tout ça, c'est Jésus qui l'a. Nous n'avons pas un petit Jésus faible et qui a des problèmes. Il n'a pas de problème, il va très bien. Nous désirons nous placer dans une situation où nous pouvons faire rentrer la moisson. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ouvrez-vous aux choses de Dieu. Prenez du temps pour vous attacher aux choses spirituelles. On a entendu de Élie, 1 Corinthiens 15, combien verset 48, ceux qui étaient là, ou 46. D'abord vient le naturel et ensuite le spirituel. On peut dire d'une façon générale, d'abord était le spirituel, Dieu. Et ensuite, il a créé les choses naturelles. Mais nous, on n'a pas une approche dans le spirituel tout de suite. Vous naissez naturellement. Il vous faut renaître à la vie de Dieu dans l'esprit. Vous commencez des choses, le Saint-Esprit descend sur toute chair. D'abord, vous vivez dans le naturel. Quand le Saint-Esprit agit sur quelqu'un, souvent il se passe des choses naturelles. Si quelqu'un tremble, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui le secoue? Non. Et lui, il sent l'action de l'Esprit de Dieu sur lui. Il ne sait pas quoi faire. son corps réagit d'une certaine façon. Quelqu'un peut trembler, un autre peut pleurer, un autre peut rire, un autre peut faire autre chose encore. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. C'est la réaction de la personne pour dire il y a maintenant un toucher de Dieu. Il faut qu'il y ait un toucher de Dieu. Nous avons besoin d'être touchés par Dieu. On l'a vu, le contact entre Jésus et la femme qui souffre. Il faut qu'il y ait un contact d'établi. Vous avez le contact avec Dieu ? Oui ? Tous les jours ? Parce qu'on peut être marié avec quelqu'un, mais on peut aussi vivre, ça on le sait, comme deux étrangers, l'un à côté de l'autre. C'est à nous de choisir quel type de relation on a avec Dieu. On peut dire, je suis enfant de Dieu, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, comme on dit, il y a 20 ans, voilà. Et puis, mais on n'imaginerait pas, on s'est marié il y a 20 ans, mais on ne se parle plus. Alors tout le monde dirait, il y a un problème dans votre couple, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez, quelqu'un, deux personnes sont mariées, et ils ne se parlent plus pendant une journée. Vous trouvez ça normal ? Juste une journée, sans un mot. Vous vivez dans la... Vous n'êtes pas, pas en déplacement pour le voyage, hein, pour les affaires. Vous habitez ensemble, le matin on se lève, rien. On est au petit déjeuner, rien. On se voit plus tard, rien. Pas un mot de toute la journée. T'as des enfants de Dieu, ça ne les dérange pas. Ils ne parlent pas à Dieu de toute la journée. Ils ne sont pas fâchés avec lui. Mais il ne lui parle pas, il ne s'en occupe pas. Et alors du coup, lui, il aimerait leur parler, mais ils n'écoutent pas. Donc, on est ensemble, on s'aime, entre guillemets, mais on n'a pas de communication. Tout le monde dirait, il y a un problème là avec vous. Mais pour les chrétiens, il y en a qui vivent ça. Et ça, ça ne peut pas être acceptable. Il faut se réveiller, il faut dire... Il ne doit pas se passer, tout le monde dit avec moi, il ne doit pas se passer une seule journée où je n'ai pas parlé à Dieu. Je ne parle pas de réciter des prières, Notre Père, je vous salue Marie, ou que sais-je. Hein. C'est pas comme ça, ça c'est pas la communication avec Dieu. Vous pouvez même lire des psaumes, ce sont des belles prières. Moi je vous parle de lui parler vraiment. Dites, Seigneur, j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, la voiture ne veut pas démarrer. Des choses de la vie, quoi, vraiment. Vous dites, j'ai besoin de ton secours. Ou, pas seulement pour faire des demandes non plus, pour dire vraiment, je suis content qu'il y ait du soleil ou de la pluie ou autre chose. Mais, et en même temps, ouvrir l'oreille. Parce que pour que ça marche dans un couple, il faut que ça soit à double sens. Si c'est à sens unique, si c'est toujours le même qui fait les efforts, si c'est toujours le même qui encourage, et si c'est toujours le même qui essaie de tirer vers le haut, au bout d'un moment, ça ne marche plus. D'accord ? Ça marche un petit moment. Donc ce n'est pas toujours la prière, ce n'est pas toujours le même qui parle. Moi j'ai une vie spirituelle super, je prie pendant 2 heures et puis c'est comme une mitrailleuse. Vous dites plein de... Non, ça c'est pas, mon avis, ce n'est pas une prière. La prière c'est savoir parler à Dieu et alors exercer l'oreille pour entendre. Alors ce ne sera pas une voix audible, du moins pas toujours ou rarement. Mais... en vous-même, vous le savez. Vous le savez, c'est au travers de votre esprit, la voix de votre conscience est encore un petit peu autrement, mais ça influence aussi. Mais c'est en vous-même. Tout à coup, quelque chose devient clair. Vous dites oui. C'est une direction. Des fois, il y a des directions qui, ce n'est pas grave. Gloria Copeland raconte dans un de ses livres, première fois qu'elle a entendu la voix de Dieu, c'était... va dans ton garage, la lumière est allumée, la lumière de la voiture. Elle a chassé cette, hein, pour ceux qui se rappellent, elle a chassé cette idée un peu bizarre en disant, non, c'est pas Dieu, maintenant je veux être concentré sur ce que Dieu veut me dire. Et ça revenait, jusqu'au moment où elle l'a fait, effectivement, les lumières étaient allumées, elle a éteint, et sinon la batterie aurait été à plat. Donc vous voyez, il y a des choses simples, et ça fait plaisir, c'est des petites expériences. Pour nous aussi, on a vécu des choses comme mercredi soir. Philippe pensait à un texte et puis il ne l'a pas lu, il a raisonné. Après, je suis moi tombé sur le même texte, mais moi je l'ai lu. Sauf que j'ai enlevé la première partie parce que j'ai réfléchi, j'ai raisonné, je me suis dit non, ça c'est pas utile. Après lui, il a rajouté la première partie et c'est des petites choses. Mais qui nous parle pas de coïncidence, pas de hasard, mais d'une direction de Dieu, surtout que ça confirmait, c'était une parole pour le pasteur Yves et Michel, qui confirmait leur ministère et ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Et donc, soyez attentifs. J'ai dit, chaque jour doit être une journée où j'ai parlé à Dieu, où il m'a parlé. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je vous encourage à concrétiser ça. Moi, j'ai là mon petit cahier. Là, j'écris les paroles de Dieu. Alors, j'ai les idées de Dieu aussi. J'ai les pensées, les prières. J'avais déjà fait, puis je l'avais laissé tomber pendant quelques temps. Et dernièrement, le Seigneur m'a vraiment poussé à dire, pour recommencer avec le cahier, écrire les choses. Dieu nous a donné sa parole écrite. Dans Habacuc, il est dit, écris la vision, écris-le. C'est pour ça que moi, je ne veux pas être pénible, mais je dis, quand vous ne prenez pas de notes pendant les prédications, les enseignements, vous perdez beaucoup. Dites-le à votre voisin, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup.
Voilà. En fait, moi, je voulais le dire au début du culte, parce que quand tu l'as dit, on va partager, je me suis dit, mince, mais c'était tellement extraordinaire, mercredi soir, et je ne me souviens même pas, enfin, je ne saurais même pas redire. Et donc, j'ai ouvert mon carnet, je dis, ah oui, il y avait ça. Si je ne l'avais pas noté, je ne sais pas ce que j'aurais été capable de redire.
Moi, j'ai mes notes, là. Je suis le premier parce que je ne vous dis pas de le faire et je ne le fais pas. J'ai toujours de quoi écrire. Si Dieu me dit une parole, ça peut des fois être une parole de vie ou de mort. Ça va jusque-là. On a des paroles qui sont très importantes. Et je ne vous dis ça pas pour vous faire pression, pour vous menacer. Ce n'est pas du tout mon idée. C'est juste dit, on perd beaucoup parce que... Alors, on a justement... On a besoin de 3000 paroles pour que peut-être il en reste une quelque part dans notre cœur ou notre tête. Mais si, vous savez, avec tout ce gâchis de paroles, ça fait beaucoup de fatigue. On pourrait arriver à cette foi de cet homme qui a dit « Un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus savait, ça c'est un homme de foi. Il sait apprécier la valeur d'une parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui méprisent. Nous, on est tellement riches ici. On a des centaines de cassettes, des centaines de messages. On a d'excellents livres, par dizaines. On pourrait maintenant s'arrêter et puis simplement réécouter jusqu'à la fin. On n'aurait plus besoin que quelqu'un prêche. Mais on veut du live, on veut du vivant. Mais on a tout ça. Mais quoi en faire maintenant? Quoi en faire? On veut que ça multiplie. On veut que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que notre voix aille jusqu'aux extrémités du monde. C'est Romains 10, 22 qui dit ça. Leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. Et nous voulons entendre des paroles inspirées de Dieu. Et vous avez besoin d'entendre de Dieu plus que jamais. C'est le moment. Dites, c'est le moment d'entendre de Dieu. Et je termine par le verset dont Isaïe les dit, le Seigneur ouvre mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Je vous le cite de mémoire, mais on va le chercher pour s'assurer qu'il est bien au bon endroit et qu'il est toujours là. Personne ne l'a enlevé, il est toujours là, en Isaïe 50, et c'est le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Tout le monde dit ça après moi ? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Qui parmi vous a déjà trouvé qu'il était timide des fois? Levez la main. Voilà. Qui pense qu'il était comme Moïse? J'ai la bouche embarrassée. Je trouve pas les mots. Comme Moïse, hein? Vous avez vu là, ce qu'il est devenu après, hein? Ici, il est dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée. Pour que, qu'est-ce qu'on a dit? Parler de la part de Dieu. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Pour que je sache soutenir, tout le monde après moi. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le diable vient immédiatement, tu dis, ouais mais lui il souffre et tout, et toi tu crois qu'avec une parole tu vas lui faire du bien? Tu crois que ça va lui aider? Il a besoin d'autre chose? Non, d'abord il a besoin d'une parole. Parce que nos paroles sont esprit et vie. Celui qui est abattu, il y a une parole qui peut le redresser. De la même façon qu'il dit une seule parole et mon serviteur sera guéri. Alors ça c'est pour ce qu'il nous a donné pour nous exprimer. On a dit pour parler. Et maintenant aussi pour écouter. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute. Comme écoutent des disciples. Le disciple n'écoute pas distraitement. Il dit pas, oh, passe au par-dessus. Ou alors il ne dit pas non plus, j'y comprends rien. Le disciple est là pour apprendre justement. Si vous avez tous les philosophes qui avaient des disciples, etc., ben, le disciple il s'efforçait, des fois ça lui passait au-dessus, mais il s'efforçait, il dit, faut que j'essaie de comprendre ce que veut dire le maître. Ben, pour nous c'est pareil. Dieu ne nous dit pas des choses incompréhensibles et lointaines. Il veut au contraire qu'on soit capable d'écouter comme les disciples, comprendre et faire après. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté. Et je n'ai point résisté. La Bible dit que la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. On voit des idolâtres, on dit, oh là là, vraiment, ça fait pitié, hein, ils se prosternent devant ces statuettes-là. Moi, je suis pas comme eux, mais je résiste à la parole de Dieu. Et la Bible dit, c'est aussi coupable. Aussi coupable. Nous ne voulons pas ça. Je ne me suis point retiré en arrière. Alors, on a un beau mot en français pour ça. Les rétrogrades. Pour ceux qui sont en train de passer leur permis ou qui commencent là, pour rétrograder. Alors, nous, on veut passer, on veut pas la vitesse économique, hein, c'est pas bon ça. On veut la quatrième, celle qui a du punch, celle qui va vite. Et donc, quand on commence à monter les vitesses et quand on a notre vitesse de croisière, on veut pas réduire. On est en route pour Dieu. L'apôtre Paul disait, j'ai achevé la course. La course, c'est pas la course des limaçons, hein. C'est pas, on traîne pas des pieds. Une course, ça veut dire courir. C'est pas marcher. Hein. Vous avez déjà vu des gens qui font des, entre guillemets, courses de marcheurs, là, des hanches comme ça. Mais, donc eux, ils ont un principe. Mais nous, c'est la course qu'on est appelé à vivre. Une course, ça veut dire que on veut atteindre un objectif, on veut aller jusqu'au bout, on veut y aller vite. On veut l'atteindre réellement, achever la course, ne pas se retirer en arrière et pas descendre d'une vitesse. On n'est pas en train de vouloir utiliser le frein moteur et freiner et résister. Ce n'est pas ce que nous voulons. Amen. Voilà, faites-en bon usage. Laissez-vous remplir de Dieu et ayez cette soif de surnaturel. Vivez des bonnes choses. Comme disent les Anglais ou les Américains, have fun, enjoy, ça veut dire profitez-en. La vie chrétienne doit être exaltante. J'ai dit sinon, si le monde a quelque chose de mieux à nous proposer, c'est grave. Hein? Alors là, c'est grave. Et ça, c'est inacceptable pour moi. Nous devons profiter de cette vie en abondance que Dieu nous a donnée. On chantait autrefois, avait un des psaumes, et on l'avait mis en chant. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je veux voir un peuple de Dieu heureux, pas de triste mine. D'accord? Amusez-vous.